Même si le cheval a contribué de bien des façons à l'émergence de la civilisation européenne moderne, lorsque l'on examine cette époque donc moderne, donc du XVIe-XVIIIe, lorsqu'on l'examine sous l'angle du cheval, c'est souvent, dans les représentations collectives, c'est souvent l'imaginaire guerrier qui surgit d'abord. C'est-à-dire qu'on pense d'abord le cheval en termes de rapport aux pratiques guerrières. On le pense en termes de couple, homme-cheval, guerrier-cheval. C'est lui qui semble s'imposer d'abord. Il y a donc un lien entre le cheval et la guerre qui est très prégnant, qui est même presque consubstantiel et qui mérite qu'on s'y attarde. Il est tellement important, ce lien entre le cheval et la guerre, à l'époque moderne, qu'on pourrait s'attendre tout naturellement à le retrouver aussi fort, aussi prégnant, dans le discours qui va théoriser l'art équestre à partir de la fin du XVIe et du début du XVIIe en France, tout au moins. Donc là se met en place un discours théorique, un discours de réflexion, tout doucement. Et donc on s'attend à trouver dans ces discours, une place importante accordée à la guerre. Et en y jetant un œil assez rapide, il semble que ce rapport entre la guerre et l'art équestre, au moins dans ses débuts, semble plutôt équivoque, plutôt embarrassant, parce que, en réalité, eh bien, ces premiers discours du XVIe-XVIIe siècle, qui théorisent l'art équestre, n'accordent qu'une place assez secondaire à la guerre. Donc il y a là comme une sorte de paradoxe entre la place prépondérante de la guerre dans l'imaginaire collectif, quand on parle de cheval, et cette place assez secondaire qui est accordée au discours théorique. Donc je vous propose de nous intéresser à ce paradoxe, en questionnant tout d'abord ce discours théorique sur l'art équestre, fin XVIe et tout au long du XVIIe, et surtout en interrogeant l'imaginaire qui le sous-tend, et qui permettrait sans doute de mieux comprendre cette absence de la guerre, cette absence relative de la guerre dans les discours théoriques, de s'intéresser ensuite à la manière dont, au XVIIIe siècle, très progressivement, a pu se construire une véritable équitation militaire, spécifiquement militaire, et d'envisager ensuite, les changements que cette apparition d'une équitation militaire, les changements que ça a pu induire sur l'imaginaire équestre en lui-même. Alors, si l'on s'attache au discours, donc à partir de la fin du XVIe siècle, si l'on part de l'idée d'une place de discours qui ne font qu'une place assez faible aux préoccupations militaires, nous pouvons considérer d'abord Delabroux, Salmon de Labroux, qui est l'héritier du célèbre écuyer Pignatelli de Naples et qui se considère lui-même comme étant le premier Français à avoir écrit sur l'art de la cavalerie. Alors attention, première mise au point, sémantique, il y en aura d'autres, mais très significative, ce que Salomon de Labroux entend par art de la cavalerie n'a rien à voir avec ce que ça évoque pour nous. La cavalerie, ce n'est pas dans son sens les troupes montées, des soldats à cheval, mais c'est tout simplement l'art équestre en lui-même. Il emploie le terme cavalerie, enfin il emploie, et tout le monde à son époque emploie le terme cavalerie. Donc il y a déjà là comme une distorsion qui devrait nous avertir. Et dans son ouvrage, Delabroux, donc son ouvrage qui paraît à la fin du XVIe, Delabroux consacre quelques passages à l'aspect militaire du cheval, notamment par exemple en ce qui concerne le choix du cheval de guerre, sur quels critères doit-on se baser pour choisir un cheval de guerre, mais cet intérêt reste secondaire. Ce qui est intéressant parce que Delabroux est lui-même un homme de guerre, il a pratiqué le métier de la guerre, il le connaît. Et pourtant, dans son ouvrage, c'est secondaire. Et il le dit d'emblée, dans l'adresse au lecteur, dès le début du livre, ce n'est pas là son propos. Il apparaît très clairement que son ouvrage n'est pas destiné à l'enseignement ou à l'exercice des cavaliers et de leurs chevaux, des troupes, pas plus qu'il ne veut faire œuvre didactique à l'intention des gentilshommes qui souhaiteraient faire de la guerre leur métier. Non, il évoque la guerre parce que c'est l'une des occupations essentielles du gentilhomme, uniquement pour cela. On n'y trouvera donc pas d'exercice précis, concret, pour préparer à la guerre. Par contre, on trouvera, à travers les chapitres, en les parcourant, on trouvera des méthodes qui permettent d'améliorer certaines capacités du cheval qui pourraient être utiles à la guerre. Ou alors, au contraire, on trouvera de quoi remédier à certains défauts qui, sur le champ de bataille, pourraient s'avérer assez périlleux. Si l'on envisage l'autre grand nom de ces débuts de la théorisation de l'art équestre, Pluvinel, nous allons nous trouver face à une situation assez comparable. Donc Pluvinel est lui aussi l'élève de Pignatelli. Il est connu pour avoir été l'écuyer de Louis XIII et pour avoir considérablement développé la théorie de l'art équestre et posé un petit peu les bases de l'école française d'équitation. Tout son savoir et tout son art ont été recueillis dans un ouvrage qui a été publié à titre posthume. C'est l'instruction du roi en exercice de monter à cheval. Son ambition dans cet ouvrage était de réduire l'art équestre en une série de principes appliqués avec méthode et analysés avec méthode. Pour autant, à travers cet objectif ambitieux, on s'aperçoit que l'utilité militaire est extrêmement limitée, là encore, comme chez Delabroux. La réflexion de l'auteur s'inscrit en réalité dans ce qu'on appelle l'économie du paraître, c'est-à-dire la manière de manifester son statut, son rang et son prestige à l'extérieur, notamment à la cour, vis-à-vis de ses pairs et vis-à-vis de ses inférieurs. Et puisque c'est une économie du paraître qui va guider son travail, puisque l'équitation s'inscrit dans une économie du paraître, eh bien, c'est l'aspect esthétique qui va l'emporter dans son ouvrage. Et le maître attend d'abord de son élève, fut-il Louis XIII, qu'il soit d'abord un bel homme de cheval. Voici l'objectif principal de Pluvinel, former un bel homme de cheval. L'objectif de Pluvinel n'est donc pas de délivrer une connaissance ou un savoir équestre directement applicable sur le champ de bataille. Son enseignement se conçoit plutôt comme une propédeutique à la guerre, c'est-à-dire que le cavalier va acquérir, là encore, des techniques, des méthodes, dont il pourra tirer parti à la guerre, mais il n'apprendra pas une méthode de combat particulière. Donc finalement, Pluvinel développe un art équestre utile à la guerre, plus qu'un art équestre de la guerre en soi. Alors il en va de même pour son élève, René de Menou, qui s'inscrit dans la même perspective. Si l'on pousse, mais on s'arrêtera là, si l'on pousse sur les ouvrages d'équitation jusqu'au milieu du XVIIe, on peut trouver l'ouvrage de Delcampe en 1658. L'art de monter à cheval, là encore, on va trouver chez Delcampe, on retrouve l'importance que l'on accorde au dressage, mais en vue toujours d'une équitation de paraître. On dresse le cheval pour produire un art équestre du paraître, de la parade. Cet art équestre qui domine à la cour et dans les manèges, fait de passades, de pirouettes, de demi-vols, de croupades et autres airs artificiels, airs relevés, dont l'école française va se faire la spécialiste. Donc, à travers cette rapide perspective des principaux auteurs de la fin du XVIe et du début du XVIIe, on retrouve une permanence, un élément récurrent, une continuité, c'est que nous avons affaire à des livres qui considèrent l'équitation, l'art équestre, comme étant d'abord un art de parade, d'esthétique. Tous admettent qu'il n'y a pas d'utilité militaire directe dans leurs ouvrages, ce ne semble pas être leur propos. Quand bien même était-il soldat comme Delabroux ? Ce n'est pas par méconnaissance, c'est volontaire. Alors il importe d'essayer de déterminer les raisons de ce choix. Pourquoi est-ce qu'on écarte l'équitation proprement de guerre ? La culture équestre pourrait-elle négliger la guerre ? L'une des raisons est sans doute à chercher dans l'imaginaire équestre en lui-même. À la fois dans ce qui va changer dans cet imaginaire équestre, à la fois dans les dynamiques nouvelles qui vont modifier l'imaginaire, et à la fois aussi un petit peu dans les récurrences, dans les héritages, dans les archaïsmes, pourrait-on dire presque. Alors dans ce qui change, tout d'abord, si l'on analyse l'imaginaire équestre, on y retrouve la force de l'imaginaire politique. le cheval est lié au pouvoir, ce qui n'est pas nouveau en soi. Et ce qui est nouveau peut-être, c'est la forme que prend ce lien à partir de la fin du XVIe et du début du XVIIe siècle. Pour illustrer le lien entre cheval et pouvoir, on peut prendre, par exemple, la figure classique du roi cavalier. L'expression de Daniel Roche, qui, s'il n'a pas pu venir, du moins peut-on l'inviter ici à travers ses propres paroles. Donc l'idée d'un roi cavalier qui illustre ce lien entre le cheval et le pouvoir, l'art équestre et le pouvoir. Pour bien comprendre et bien matérialiser ce lien entre le cheval et le roi, on peut repartir de Pluvinel. On peut repartir de ses écrits, tout d'abord. Son ouvrage et ses travaux sont directement destinés à Louis XIII. Il est l'écuyer personnel de Louis XIII. C'est lui qui va le former à l'art équestre. Et il lui explique, dès le début, que l'équitation permet de former le corps et l'esprit. Il faut par exemple apprendre, lorsqu'on est équitant, il faut apprendre à souffrir les extravagances du cheval, à supporter l'animal. Il faut apprendre à juger avec froideur, à garder son sang-froid dans des situations parfois difficiles, voire périlleuses, ce qui peut être par contre très utile à la guerre. De même que le parfait cavalier doit vivre sobrement, éviter tous les excès, toutes sortes d'excès et de débauches. Chose importante pour un grand roi également, l'art équestre rend la flatterie impossible, puisque là, la flatterie s'efface devant la réalité des faits. Un mauvais cavalier ira à terre, qu'il soit roi ou pas. On apprend enfin, selon Pluvinel, en étant un parfait cavalier, on apprend à ne pas exercer de violence à l'égard du cheval, à pratiquer avec douceur. Il faut bien se garder de battre le cheval et n'user de sa force qu'avec grand jugement, maîtrise de soi, sang-froid. Et tous ces conseils prennent leur sens si l'on considère la métaphore du cheval royaume, c'est-à-dire, métaphore également ancienne, le cheval symbolisant le peuple. Et là, on va mieux comprendre les conseils de Pluvinel au roi. Finalement, dans cette idée du cheval royaume, du cheval peuple, il y a l'idée que le roi maîtrise son cheval comme il contrôle le royaume. Il le fait, dans les deux cas, avec grâce, dignité, sans violence et sans perdre le contrôle de lui-même. Car la violence est bannie de l'art équestre, comme elle commence de plus en plus à l'être du champ politique. Elle est de moins en moins acceptable. Donc, le roi, avec une apparente facilité, doit obtenir la soumission du cheval. Ça ne doit pas il ne doit pas y avoir de manifestation extérieure des efforts que fait le cavalier, le roi cavalier, pour soumettre son cheval. Il le fait avec subtilité, avec un minimum de manifestation extérieure. Et une des illustrations tirées de Pluvinel permet de se rendre compte un petit peu de ce que l'on exige du cavalier. On voit ici Louis XIII réalisant une croupade, donc un des airs relevés. Et ce qui frappe, au-delà de la complexité de l'air à réaliser, nous sommes là dans une équitation de très haut niveau, c'est effectivement la facilité avec laquelle le jeune roi paraît réaliser l'exercice. Il ne laisse transparaître aucune difficulté, aucun effort. Il est digne, maître de lui-même. Il conserve la grâce qui sied à sa personne et à sa majesté. C'est l'illustration de cette éducation équestre que veut mettre en place Pluvinel. Il maîtrise le cheval avec une grande perfection et une grande subtilité. Il est efficace dans la sobriété et dans le contrôle de lui-même. Et le lien avec le pouvoir, c'est que la puissance du prince, dans cette idéologie, est en quelque sorte garantie par la grâce et la capacité du chevalier, du cavalier. Et l'idée, c'est qu'il saura se comporter avec son peuple comme il se comporte avec son cheval. Et le peuple, comme la monture, acceptera cette soumission parce que, justement, elle est acceptable, parce qu'elle est exercée avec subtilité, avec une violence contrôlée, avec dignité toujours. Donc, on comprend mieux que l'art équestre, selon Pluvinel, ce n'est pas simplement l'art de monter à cheval, c'est un art de gouverner et de contrôler la société. Au-delà du seul dressage et de l'instruction individuelle qui fait du roi un cavalier, on mesure avec, par exemple, l'organisation des carrousels, qui sont de grands spectacles équestres, dont Pluvinal fut l'organisateur au début du règne de Louis XIII. Si l'on regarde l'organisation des carrousels, on voit bien, on mesure bien comment ce nouvel imaginaire politique s'est emparé de la culture équestre. Le plus grand carrousel mis en œuvre par Pluvinal met en scène, par exemple, les grands, donc Louis XIII ne participe pas au carrousel, il est trop jeune, mais les grands du royaume vont participer et vont contribuent à cette chorégraphie qu'est le carrousel, et ils vont métaphoriquement, bien sûr, ils vont symboliquement se battre, puis se réconcilier à l'intérieur du carrousel. Donc là, le message politique est clair, c'est l'art équestre comme un outil de gouvernement, une idéologie de gouvernement qui permet d'instaurer l'ordre dans le royaume. Alors, le lien entre le cheval et le roi est tellement fort. Pour l'illustrer, un petit arrêt sur une peinture assez connue. C'est Louis XIV dans la tranchée au siège de Tournai en 1667. C'est une peinture de Van der Meulen. Et ce qu'on y voit est aussi intéressant que ce qu'on n'y voit pas, ou peu. Sur cette peinture, eh bien, le spectateur cherche le roi, qu'il aura du mal à trouver, puisque le roi est dans la tranchée, comme le titre l'indique. Et ce n'est que secondairement, en suivant la perspective du dessin, en suivant la tranchée, que l'on va trouver le roi, qui est là, s'exposant sur la banquette de la tranchée. Ce qui est intéressant, c'est donc qu'on ne voit pas le roi, ou très peu. Et c'est également ce qu'a voulu nous montrer le peintre. C'est que si on ne voit pas ou peu le roi, par contre, ce qu'on voit fort bien au premier rang, de manière éclatante, c'est ce magnifique cheval blanc qui est celui du roi. Et il y a là comme une sorte de métonymie. Le roi est remplacé par son cheval. Si vous voulez, le lien est tellement fort entre le roi et le cheval qu'il n'y a même plus besoin de montrer le roi, il suffit de montrer le cheval pour comprendre que le roi est par là. Et on le trouve au bout de la tranchée. Donc ce tableau singulier vient illustrer le lien extrêmement fort entre le roi et son cheval. Alors le roi, c'est que ça, Van der Meulen a bien... il est là. Il se lève et ses soldats, ses officiers le rattrapent parce que la place d'un roi n'est pas à peine à la tranchée et surtout pas en étant le seul zozo à sortir sa tête au-dessus de la tranchée. Donc, mais c'est très symptomatique. Bon, là, on s'égare et on s'écarte un peu, mais c'est très symptomatique de la manière dont Louis XIV a conçu également la nature de son pouvoir monarchique. Et il est revenu sur ce genre d'esclandre, ces incartades. Il se les est reprochés après. On peut le lire, je crois, dans le journal, dans les mémoires qu'il livre au dauphin, les mémoires de Louis XIV au dauphin, qu'il écrit dans les années 1670, je crois, ou la fin des années 1670. Et il dit, oui, je me suis laissé aller, je me suis comporté comme un simple gentilhomme, même peut-être comme un simple soldat, et parce que voilà, l'enthousiasme, enivré par le parfum de la guerre, j'ai voulu m'exposer, voilà, je me tape sur les doigts, cela n'est pas bien, ce n'est pas mon métier de roi, ce n'est pas ainsi qu'un grand roi doit régner. Donc nous sommes là en 67, à une époque où Louis XIV, le jeune Louis XIV, était encore un petit peu emporté par l'ivresse et l'épopée de la guerre. Voilà, et là ce qu'on voit, donc son cheval le remplace. Alors cet imaginaire politique qui est très fortement imprégné de l'idée du pouvoir et du nouveau pouvoir, cet imaginaire politique et cette culture équestre ne concerne bien évidemment pas que le roi. Elle concerne également la noblesse. D'abord parce que le cheval est un des symboles de la noblesse. Pourquoi ? Parce qu'on a tendance à projeter sur le cheval des qualités et des caractéristiques que l'on prête à la noblesse, c'est-à-dire la puissance, le courage, la fidélité, la loyauté, le sacrifice, autant de vertus nobles que l'on prête au cheval. Donc le cheval est le symbole de la noblesse. Et justement, l'art de monter à cheval, cet art équestre qui a été un petit peu rénové par Pluvinal, qui en a dégagé une pédagogie nouvelle, eh bien cet art rénové, cette pédagogie novatrice, va être transférée ensuite, qui était prévue pour le roi, hein. Il l'a conçue d'abord pour le roi, cette pédagogie va être transférée à la noblesse. Les nobles vont également en bénéficier par l'intermédiaire d'institutions comme l'école des pages, ou comme les académies, les fameuses académies à Paris et en province. Il y en a également en province. Et à travers ces différentes institutions, on comprend qu'il s'agit avant tout pour l'élève, pour le gentilhomme, d'apprendre, notamment par la maîtrise de la belle posture et de la grâce à cheval, il s'agit d'apprendre à contrôler son corps physique et à forger son corps social. Il a une sorte dédoublement, les deux corps de la noblesse. L'équitation va lui servir dans les deux cas. L'équitation apprend à mieux se connaître, à maîtriser sa peur, à connaître ses limites. Il apprend également le jeune gentilhomme, à commander en soumettant son cheval avec subtilité et sans excès, avec subtilité. Il apprend également, d'une certaine manière, à obéir en s'obéissant à lui-même par le contrôle qu'il s'impose. Il apprend ainsi le contrôle de lui-même. Il apprend à adopter un comportement pacifié qui exclut cette violence qui est de moins en moins tolérée dans la société de cour. Et on voit que, par l'art équestre, il s'agit bien de contenir la violence nobiliaire, de la cadrer en la soumettant à des procédures de codification, finalement. L'art équestre impose des codes qui permettent de retenir et de contenir la violence nobiliaire. C'est encore une fois très visible chez Pluvinel, qui exprime sa volonté de soumettre la noblesse à une éducation, là encore, du corps et de l'esprit. Et à la fin de son livre, il propose un programme d'éducation destiné à la noblesse, ce programme qui sera repris à peu près dans les grandes académies qui ouvriront à Paris en province. Et ce programme d'éducation basé sur l'art équestre a pour but, de réparer les défauts, de pallier les défauts de la noblesse, de la remettre un petit peu dans le droit chemin. Mais n'oublions pas que nous sommes là au début du XVIIe, donc pas si longtemps après les guerres de religion, et encore moins longtemps après les troubles de la Régence, de la Régence de Marie de Médicis. Donc cette noblesse perturbatrice a effectivement besoin d'être recadrée par un imaginaire politique, celui du second absolutisme, qui ne tolérera plus ou difficilement ce genre de comportement de la noblesse, même si la fronde est à venir, en tout cas se met en place un imaginaire politique qui désormais veut et entend cadrer la noblesse. Et l'art équestre est un outil au service de cette ambition politique. Mais attention bien sûr à ne pas considérer cette perspective d'un point de vue univoque. C'est-à-dire que pour les nobles, si on prend le point de vue des nobles cette fois-ci, donc le point de vue du roi et de l'imaginaire du pouvoir, c'est d'offrir une codification pour cadrer la violence nobiliaire, pour la soumettre, on n'ose pas dire la domestiquer, mais du point de vue des nobles, on ne voit pas cela uniquement de cette façon-là. Ce n'est pas une humiliation qu'on impose à la noblesse. La noblesse, au contraire, va utiliser, intégrer cet art équestre, cette éducation nouvelle, elle va l'intégrer dans ses stratégies éducatives. Elle va l'utiliser à son profit. Parce que ce qui importe aux familles aristocrates, c'est que le jeune noble, dans ses académies, va apprendre les codes qui lui seront indispensables pour sa future carrière. S'il veut briller dans la société de cour, il doit maîtriser ses codes, les codes que vont lui enseigner l'art équestre et la pédagogie de Pluvinel. Pour faire carrière, et pour une carrière réussie, commencer par se faire remarquer du roi. Et ce n'est pas un hasard si, au début du livre, Pluvinel fait dire à Louis XIII que l'une des motivations du jeune roi pour devenir un parfait cavalier, c'est de pouvoir lui-même connaître et reconnaître tous ceux qui en son royaume sont dignes d'être estimés. C'est-à-dire, il veut pouvoir maîtriser suffisamment l'art équestre pour juger de la capacité équestre des gentilshommes. Finalement, c'est de la même manière que la grâce du roi cavalier garantit son bon gouvernement, et bien finalement, la grâce du gentilhomme cavalier garantit au roi sa qualité de serviteur de la monarchie. Si c'est pour faire un raccourci un petit peu simpliste, si le gentilhomme est un bon cavalier, un beau cavalier surtout, alors il sera aussi un bon serviteur. Il y a là un critère qui permet de choisir, d'élire les serviteurs de la monarchie. On comprend mieux l'intérêt qu'y trouvent les aristocrates. L'art équestre devient un moyen de forger le corps et l'âme pour faire face au conflit de la société courtisane auquel va être confronté le jeune noble. Cet art équestre va lui permettre de se forger la figure du courtisan idéal, un guerrier pacifié, contrôlé dans sa violence, comme dans ses mœurs. Donc, ces débuts de la théorisation de l'art équestre, à partir de la fin du XVIe, début du XVIIe, correspondent à l'élaboration d'une didactique du pouvoir. Il s'agit, pour le jeune roi et pour les jeunes gentilshommes, d'apprendre à commander et à obéir. Et l'image du cheval et de son cavalier dessine une figure du pouvoir, une représentation du pouvoir, du haut vers le bas, du dominant vers le dominé. C'est une raison, c'est même sans doute la principale raison pour laquelle les pratiques militaires guerrières sont relativement secondaires dans ces ouvrages théoriques. Ce n'est pas leur propos. Alors, il peut y avoir un autre frein qui tient toujours à l'imaginaire, à l'imaginaire équestre, un autre frein au développement et à la réflexion sur les pratiques équestres de la guerre. Mais cette fois-ci, ce serait un frein qu'on interpréterait du point de vue des héritages, des permanences, et non pas des nouveautés, comme nous venons de le faire. Alors, il n'y a pas là de paradoxe. Cette évolution fondamentale de la culture équestre vers un nouvel imaginaire politique peut tout à fait se faire dans un cadre traditionnel, connu, et justement parce qu'il est connu, rassurant. Alors, de quel cadre, de quelle permanence s'agit-il? C'était assez facile à deviner. Alors, si on lit bien les ouvrages équestres de Pluvinel, de Labroux, Menou, on va trouver des éléments qui feront référence à la guerre, concrètement, ou au moins des éléments d'exercice guerrier explicites. On va en trouver. Mais de quoi s'agit-il? Alors, il est question de lances, de rompre les lances dans des lices. Il est question d'abattre des quintaines. Il est question de courses de bagues. Un exercice, d'ailleurs, qui se fait pour donner plaisir aux dames. Et Pluvinel conseille au jeune Louis XIII de courir en pensant à la reine, courir la bague en pensant à la reine, puisque, ainsi qu'il le fait remarquer, les faveurs des dames ont de tout temps fait faire des merveilles aux chevaliers. Et bon, on peut y ajouter, évidemment, cet emploi récurrent du terme « chevalier » dans tous les ouvrages, qui n'est absolument pas une erreur, qui est volontaire. Alors, si on rassemble ainsi un environnement matériel très marqué avec un environnement lexical aussi très marqué, cet aspect de l'imaginaire équestre qui apparaît ici comme un héritage, c'est l'univers chevaleresque. C'est évident. On retrouve cet univers chevaleresque à travers des planches de Pluvinel, donc des belles gravures de Crispin de Pas qui ont fait la qualité de l'ouvrage. On y voit en haut la course de bagues, où le chevalier, c'est bien le terme, le chevalier, avec sa lance, va aller décrocher la bague. Au milieu, la quintaine, c'est le mannequin. La bonne vieille quintaine des chevaliers. Et en bas, on court la lice et on joute contre un adversaire. On s'interroge sur la présence de tout cet univers chevaleresque dans les ouvrages, au début du XVIIe et même bien en avant dans le XVIIe siècle, parce que, pour ne parler que des lances, bien l'usage des lances est passé de mode dès le début du XVIIe dans la cavalerie française. Et c'est peut-être justement pour cela qu'on s'y accroche autant dans cet ouvrage, ou dans ce type d'ouvrage. C'est parce que le gendarme, on appelle gendarme en fait l'héritier du chevalier, l'homme d'armes. Le gendarme, c'est ce gentilhomme monté sur un destrier de grand prix, couvert du harnois blanc de l'armure de la tête aux pieds, armé de la lance. Ce combattant-là, ce guerrier, n'existe plus au début du XVIIe. Mais d'où l'intérêt d'en ranimer le souvenir. Parce que l'imaginaire chevaleresque est d'autant plus important que la réalité chevaleresque n'existe plus. Et cette réalité-là, elle est occultée dans les ouvrages qui théorisent l'art équestre, parce qu'ils ont, parce qu'elle leur est, elle leur est utile, l'univers chevaleresque leur est utile pour donner un cadre au nouveau message politique qui est contenu dans l'art équestre. Ce nouvel imaginaire politique passe mieux avec ce cadre, avec l'éthique chevaleresque comme emballage, si j'ose dire, de manière un peu prosaïque. Et ce n'est pas dans les ouvrages d'art équestre qu'on s'en rend le mieux compte. C'est dans les ouvrages de théorisation militaire, purement militaire cette fois-ci, là on conçoit le débat. Là, on se rend compte qu'il y a débat. Et on se rend compte qu'on est à une époque charnière où la disparition du gendarme, de l'homme d'armes, du chevalier, eh bien, rend mal à l'aise certains auteurs. Des auteurs comme Wallhausen, au début du XVIIe, n'acceptent pas cette réalité de la disparition du chevalier. Parce que pour eux, elle est socialement inacceptable. Parce que derrière, il y a, sinon la démocratisation, mais au moins la massification de la cavalerie. Et ça, c'est insupportable. Donc, certains auteurs comme Wallhausen la refusent, avec parfois une certaine mauvaise foi dans les arguments. D'autres, au contraire, comme Giorgio Basta, la constatent et essayent de s'y adapter, de forger peut-être une nouvelle éthique, comme essaye aussi Lanoux dès la fin du XVIe. Donc, il y a un débat à cette époque-là autour de la disparition du chevalier et ce que ça implique au niveau militaire, mais surtout au niveau socioculturel. Et ce débat n'apparaît pas dans les ouvrages d'équitation de la même époque, parce que ça serait trop déstabilisant par rapport au message politique, à l'imaginaire politique qui passe dans ces ouvrages. Et on peut comprendre également, à travers la prégnance de cet univers chevaleresque, on peut avoir une autre clé qui permet de comprendre le peu de place que tiennent les pratiques guerrières dans ces ouvrages. C'est que finalement, si l'on part du chevalier, l'apprentissage de la guerre à cheval, c'est une partie fondamentale du mode de vie et de l'éthique même du chevalier. Il n'y avait pas, dans la vie du chevalier, de séparation tranchée entre une vie civile, entre guillemets, un terme qui n'existe pas jusqu'au 19e, fin du 18e. Il n'y a pas de séparation entre la vie civile et la vie militaire du chevalier. La vocation du chevalier, c'est de combattre. C'est sa raison d'être. C'est ce qui légitime sa domination sociale jusqu'au 16e siècle. Et il s'y prépare dès son plus jeune âge et il y consacre le reste de sa vie. À travers la guerre, à travers la paix, dans des exercices, des joutes, des tournois. Donc, si vous voulez, il n'y a pas lieu de théoriser l'apprentissage de la guerre à cheval. Ça n'a pas lieu d'être, puisque c'est l'objet même de la vie du chevalier. C'est une des raisons qui permet également de comprendre l'absence ou la faible place des pratiques militaires dans ces ouvrages. Il y a comme un écran, cette prégnance de l'univers chevaleresque fait comme un écran au développement d'une réflexion approfondie sur l'art de la guerre à cheval dans ces ouvrages. Donc les traités d'équitation renvoient à un imaginaire politique et social qui n'a pas vocation directement à former et à instruire pour la guerre. Cette formation pour la guerre, elle est renvoyée à une formation empirique et pratique qui fait partie du mode de vie nobiliaire. Voilà, ça fait partie du mode de vie. Lorsqu'on est noble, on apprend à monter à cheval et on apprend à se battre. Point. Et d'ailleurs, au début du XVIIe, dans un ouvrage de théorisation militaire, Louis de Montgomery, lorsqu'il va s'apprêter à traiter de la cavalerie, s'excuse presque en disant « Bon, je sais que je m'adresse à des gentilshommes et bon, je ne voudrais pas dire que je vais avoir la prétention d'instruire Minerve. Je ne vais pas vous apprendre ce que vous connaissez déjà. » Et on mesure là bien l'obstacle qui s'oppose à la théorisation de l'art de la guerre à cheval. On ne peut pas théoriser puisque c'est une question de mode de vie. C'est implicite, c'est ainsi. Alors le problème, c'est qu'entre cet imaginaire équestre du pouvoir et de la politique, et les réalités de la guerre, eh bien, il y a un fossé qui se creuse et qui va devenir de plus en plus considérable. Et la manière de faire la guerre change de manière radicale. On ne fait plus la guerre comme autrefois, en alignant les gendarmes, les gentilshommes, donc avec leurs lances, leurs destriers de grand prix et leur armure complète, donc un véritable système d'armes, en fait, qu'est le chevalier, aligné en haie, sur une profondeur très très de 1, 2, maximum 3, c'est plutôt un ou deux chevaliers alignés en haie pour que chacun puisse prouver sa valeur. Ce n'est plus du tout comme ça qu'on va faire combattre la cavalerie, mais c'est désormais par escadron. L'art de la guerre à partir du XVIIe, c'est ça. Ce n'est plus les haies de chevaliers. Ce sont des escadrons dans lesquels les cavaliers et les officiers ont une place attribuée. Chaque homme, chaque cavalier n'est plus que finalement l'élément de base, la cellule élémentaire d'une unité tactique qui va combattre, Ce n'est pas le cavalier qui combat, c'est l'escadron dans lequel il est intégré. Le cavalier, lui, a une place dans le rang, dans la file qui lui est attribuée. Et sa mission est de n'en pas sortir sous peine de faire perdre la cohésion de l'unité et donc de mettre l'escadron en danger. Donc il est absolument plus question de coucher la lance et d'aller affronter un adversaire choisi, de faire 1000 prouesses pour prouver devant toute la cour et devant le roi la valeur et le courage de sa lignée. Ça, ce n'est plus acceptable. Donc il va y avoir la nécessité d'une évolution. Cette évolution, elle se fait sentir à l'orée du XVIIIe siècle. Cette période peut être conçue comme une époque de transition, un petit peu, les premières décennies du XVIIIe. On peut déceler une inflexion, notamment dans le discours des grands maîtres de l'époque, des grands maîtres de l'équitation, comme Laguérinière, qui est sans doute le plus grand écuyer français du XVIIIe, qui est le véritable fondateur de la haute école, de ce qu'on appelle l'école de Versailles, d'équitation. Et on sent une inflexion parce qu'il éprouve dans son ouvrage, Laguérinière, le besoin de légitimer l'équitation de la haute école aux yeux des militaires, de s'expliquer, de prouver. L'art de la guerre et l'art de la cavalerie, affirme-t-il, se doivent réciproquement de grands avantages. Et d'ailleurs, le fait qu'il utilise deux termes différents, deux expressions différentes, montre bien que pour lui, ces deux équitations renvoient à des réalités bien différentes. Alors, par exemple, pour lui, la question des voltes et la volte que fait le cavalier pour tourner est un exemple de ce lien. Les anciens écuyers inventèrent les voltes pour rendre les chevaux plus adroits dans les combats d'épées et de pistolets. Voilà ce qu'il explique pour justifier le lien entre l'équitation de la haute école et la guerre. Cependant, lorsqu'il explique ça, à quelle guerre, à quel type de guerre est-ce qu'il renvoie ? Il renvoie à un combat singulier, un combat de cavalier à cavalier ou un combat à la rineta. Cette équitation espagnole, tout en vitesse, en rapidité, en agilité, ça ne renvoie absolument pas au combat à la charge d'un escadron. Donc ils ne forment pas des officiers ou ils ne forment pas des soldats pour la nouvelle façon de se battre. Et chez la Guérinière, malgré ses efforts pour essayer de trouver un lien, une légitimité, l'équitation de la Guérinière est toujours le reflet des valeurs et des représentations qui sont attachées au cheval en tant que symbole de la noblesse. Le jeune noble doit savoir monter, c'est son mode de vie, c'est presque ontologique. Comme au XVIIe, chez la Guérinière comme au XVIIe, l'acquisition de l'art équestre est encore censée faire du jeune noble un courtisan, le préparer à sa carrière de courtisan. Et comme chez Pluvinel, l'homme de cheval doit toujours être beau, c'est un bel homme de cheval. On retrouve les mêmes objectifs un siècle plus tard. La position de Gaspard de Saunier, qui lui aussi écrit un ouvrage sur l'art de la cavalerie, est un petit peu plus claire, mais il fait valoir également son expérience du combat, que n'a pas la Guérinière. Cette expérience qui l'autorise à bousculer avec ironie les préjugés de ce qu'il appelle les nourrissons de Mars, c'est-à-dire les jeunes nobles frais et moulus de la cour, et qui arrivent comme ça sur le champ de bataille. Ces jeunes nobles, à qui l'expérience n'a pas encore ouvert les yeux, tous remplis des grandes apparences du manège, ils s'imaginent que les airs les plus relevés sont les meilleurs pour combattre, que ce qui saisit l'admiration du peuple dans un temps de parade saisit également l'ennemi dans la mêlée d'une action. Mais leur erreur est grande, et leur prévention ne peut paraître que très ridicule dans l'esprit des guerriers et de ceux qui ont traversé 1000 fois les écueils de la mort. Alors les propos de Saunier sont assez intéressants, parce qu'ils nous montrent bien à quel point, selon lui, l'imaginaire équestre dans lequel baigne ces jeunes nobles fait écran à leur compréhension de la réalité du combat. Il saisit bien l'essence de cette équitation de cour, une équitation qui renvoie au pouvoir à la représentation, il part bien des apparences du manège. Il s'agit d'une équitation qui va permettre de captiver le peuple en suscitant son admiration, et par là même le noble va conforter son prestige et son rang. Voilà l'objectif de cette équitation. Mais une fois sur le champ de bataille, le jeune homme va devoir s'affronter à un tout autre univers. Effectivement, l'ennemi sera assez moins sensible que le peuple à l'habileté dans les voltes, les croupades et autres changements de main. Et pour bien montrer le changement d'univers, d'un point de vue lexical, Saunier oppose l'apparence à la mort, les deux univers opposés. Bon. Cependant, Saunier jouit d'un rayonnement qui est quand même moindre que La Guérinière, et son ouvrage sera publié, ne sera publié que 6 ans après sa mort, en 1756. Donc, dans les premières décennies du XVIIIe, une transition, mais guère convaincante, puisque les tentatives de La Guérinière pour essayer de concilier l'équitation de la haute école et la guerre n'ont guère suscité d'écho chez les militaires, en fait. Il semble même que les principes de la haute école soulèvent une opposition de plus en plus vive dans l'armée. Une opposition qui semble s'être accrue à partir de la guerre de succession d'Autriche, 1740-48. Et les militaires constatent de plus en plus le fossé entre la haute école et les réalités de la guerre. Et les conséquences de ce fossé sur la formation des officiers peuvent être désastreuses sur le terrain. Un certain nombre d'officiers vont, comme ça, entamer une critique en règle et un feu roulant sur l'équitation de la haute école. Drummond de Melfort, qui sera inspecteur général de la cavalerie, qui a bénéficié des préceptes de Maurice de Saxe, et qui met directement en cause l'équitation d'écuyers. Moustier également, et d'autres. Alors, avec toutes ces réflexions, le ministère commence à s'intéresser un petit peu à la question de la formation équestre des cavaliers, mais sans aller jusqu'à reprendre les remarques de Drummond de Melfort, par exemple, sans aller jusqu'à entériner les abus de la haute école. Finalement, l'inflexion véritable viendrait après la guerre de 7 ans, 1756-1763, principalement parce que là, la cavalerie française a été confrontée à la cavalerie prussienne, qui est la meilleure d'Europe, et qui bénéficie d'un niveau d'instruction inégalé jusqu'alors. Et elle a appris à ses dépens que désormais, combattre à cheval, ça allait s'apprendre. Parce que ce n'était plus possible. Un Rosbach, ça passe, mais deux, un Minden supplémentaire, c'est assez d'humiliation, il va falloir se reprendre en main. Donc le ministère entend faire un gros effort d'instruction équestre. Et il va créer dans la foulée, en 1764, 5 écoles militaires qui ont vocation à former les officiers. À Douai, Metz, Besançon, La Flèche et Cambrai. Alors la question n'est toujours cependant pas immédiatement résolue, ça serait trop beau, parce que d'abord, tout simplement, les écuyers instructeurs qui sont envoyés dans ces écoles ont eux-mêmes été souvent formés à la haute école, donc ils perpétuent l'influence de l'équitation versaillaise. Et puis, et ça c'est un autre gros problème qui sera récurrent, les autorités, les inspecteurs de la cavalerie et le ministre ont du mal à établir des principes clairs sur l'instruction équestre, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on apprend au cavalier et comment on lui apprend. Et lorsqu'ils en ont, ils ont du mal à les faire appliquer, à obliger les chefs de corps, les colonels de régiment, ils ont du mal à les obliger à appliquer ces préceptes. Alors, du point de vue des principes, pour fixer les principes de l'instruction équestre, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on apprend et comment on l'apprend, l'œuvre décisive sera celle du lieutenant-colonel d'Auvergne, qui lui enseigne à l'école militaire depuis 1756. Il est considéré comme le véritable fondateur de l'équitation militaire française. Ses travaux sont fondateurs parce que lui part de la réalité, et il le fait fort bien. Il part des cavaliers, il connaît les cavaliers qui constituent la cavalerie française, et il sait que ce sont des cavaliers très très peu cavaliers. Ce sont certes des paysans, mais ce n'est pas parce qu'on utilise un cheval pour tirer sa charrue ou pour tirer sa charrette qu'on sait monter à cheval. Ce n'est pas parce qu'on monte de temps en temps sur un percheron qu'on est capable de combattre à cheval. Donc les cavaliers sont souvent de mauvais cavaliers. Et deuxième élément, qui découle du premier, la cavalerie française est donc faite pour combattre en masse. Pas de finesse, pas de finauderie. On combat en masse parce qu'on tient compte des qualités équestres limitées des cavaliers. Donc, l'instruction équestre doit se limiter à ce qui est vraiment utile à l'homme et au cheval. Je ne veux jamais que ma science, dit-il, s'étende plus loin que pour former des hommes et des chevaux pour l'escadron. Je fais fort peu de cas de tout ce brillant de manège qui ne sert à rien. On voit ainsi progressivement s'affirmer la nécessité d'une autonomisation de l'équitation militaire. En restant dans l'univers de la culture équestre, mais elle doit se faire une place à part. Se dégager de l'emprise de l'imaginaire politique, cet imaginaire politique fait de la sociabilité aristocratique et du rapport au pouvoir, et qui transparaît dans les ouvrages d'équitation, il faut s'en dégager. Et désormais, ce qui doit primer, c'est l'utilité de l'équitation. Et là, on a finalement comme un écho aux Lumières. pour qui le critère d'utilité est important. L'utilité par rapport au bien commun, par rapport au bien public, c'est un critère important pour juger des inventions et des idées. Et on retrouve là ce critère d'utilité qui s'affirme. Et l'utilité, c'est quoi ? Ben, c'est trouver une adéquation entre les principes et les objectifs. Ceci, les objectifs étant déterminés avec beaucoup de clarté par d'Auvergne. C'est-à-dire permettre à des cavaliers, très peu cavaliers, de charger en ligne d'escadron dans le cadre d'une tactique reposant sur le choc. Voilà les objectifs. Cette affirmation de l'idée d'utilité d'un modèle fonctionnel est également perceptible à la même époque, pas simplement dans la question de l'instruction, mais par exemple dans le choix du cheval de guerre. Donc, sur quels critères on se base pour prendre un cheval de guerre ? On voit là aussi apparaître ce critère de fonctionnalité, d'utilité. Alors, avant d'Auvergne, avant le lieutenant-colonel d'Auvergne, des officiers avaient déjà commencé à critiquer la haute école et ses abus. Mais aucun n'avait proposé une approche vraiment systématique en vue de définir concrètement la spécificité d'une équitation militaire. Et il fut sans doute le premier à vraiment la théoriser, et très clairement. Mais les idées d'Auvergne ne vont pas s'imposer immédiatement, d'abord parce que ces réflexions très approfondies vont rester à l'état de manuscrit, ce qui ne facilite pas leur diffusion. D'autre part, parce que l'influence de la haute école est encore conséquente, on ne s'en démarque que très très progressivement. Et enfin et surtout, toujours ce problème de la difficulté à accorder les acteurs du monde militaire sur les principes de l'instruction. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on doit apprendre aux cavaliers ? Alors, d'Auvergne a donné une ligne de conduite très claire, mais les hautes autorités ne sont pas toutes d'accord. Les inspecteurs généraux se disputent. On n'arrive pas à fixer des principes clairs. Ensuite, il aurait fallu aussi les appliquer, ce qui n'est pas facile. Donc, Voyer d'Argenson, qui est un des inspecteurs, le souligne en 64, « Les opinions, les faux principes, tous les systèmes sur l'équitation changent comme les têtes et l'amour-propre de ceux qui les enfantent. » Et la création des 5 écoles d'équitation, de ce point de vue-là, qui aurait pu paraître comme un progrès, va s'avérer un peu contre-productive, puisque chaque école a ses propres principes d'instruction. Donc, on perpétue la diversité. Et on y apprend aussi, comme le remarque d'Auvergne, beaucoup de choses inutiles, pour peu que les instructeurs en chef de l'école soient issus de la haute école. La principale conséquence de ce manque d'uniformité sur les principes, c'est la fluctuation des principes dans une fourchette très large, d'un extrême à l'autre. Un extrême qui est bien résumé par le marquis de Castres. La partie la plus saine de la cavalerie est convaincue, dit-il, que sans équitation, on n'a pas de cavalerie, et qu'avec trop d'équitation, on n'en a pas davantage. Toute la difficulté est là, donc trouver un juste équilibre entre le trop peu, c'est-à-dire finalement une équitation vraiment très simpliste, élémentaire, et qui condamne la cavalerie à l'indigence équestre, et d'un autre côté, le trop, ce serait l'influence de l'équitation de cour qui va briser les hommes et les chevaux avec des subtilités qui n'ont pas lieu d'être sur un champ de bataille. Et cette dernière tendance, en plus, se trouve un petit peu entretenue, c'est-à-dire la tendance vers le trop, vers l'exigence trop poussée, se trouve un tout petit peu entretenue malgré elle par l'enthousiasme qui est né après les défaites de la guerre de 7 ans, après 63. On a tellement voulu bien faire, on a tellement voulu augmenter le niveau d'équitation pour se mettre sur le standard des Prussiens, que parfois c'est très enthousiaste, mais très confus, on va trop loin. On multiplie les expériences, et un peu dans tous les sens, et parfois on ne sait pas où s'arrêter. Et on pousse trop loin la réquestre. Ce qui a pour effet d'irriter un certain nombre d'officiers qui fustigent cet art équestre de la haute école, et le Motin de la Bâme, par exemple, qui déplore l'enthousiasme, cet enthousiasme qui nous a porté depuis la dernière paix, avec si peu de modération, à extrapasser les chevaux, à excéder les cavaliers par un travail continuel, pendant la journée, et souvent même au flambeau dans les manèges qui ont été édifiés à cet effet. Donc, Drummond de Melfort, inspecteur de cavalerie, rappelle qu'on ne doit pas pousser trop loin l'équitation militaire, on ne doit pas chercher à embrasser tous les détails de l'art de monter à cheval, mais ne garder que ce qui est vraiment utile à la cavalerie. Ainsi, malgré les travaux de Dauvergne et malgré ses élèves qui vont venir après, Bohan, Bois d'Effre, Chabannes et autres, malgré des réflexions aussi d'officiers qui ne vont pas écrire mais qui vont faire des réflexions manuscrites, il y a des principes clairs, mais il reste la difficulté des autorités à se prononcer, et à les fixer et à les faire appliquer. Et c'est ce qui va permettre à l'influence de la haute école de se perpétuer jusqu'à ce que Oudinot, en 1825, finisse par trancher le débat et pencher en direction d'une équitation vraiment spécifiquement militaire. Alors pour terminer ce propos, nous pourrions chercher à illustrer un petit peu cette autonomisation de l'équitation militaire et ce qu'elle peut impliquer dans l'imaginaire équestre, comme renouvellement un petit peu de l'imaginaire équestre. Alors on pourrait partir d'un cas de figure, d'un cas d'école, qui est la position du cavalier à cheval. C'est-à-dire comment doit-on se tenir pour être à cheval et pour combattre à cheval. C'est très intéressant parce que à travers cette question, on voit vraiment la problématique glisser d'une perspective esthétisante vers ensuite des questionnements beaucoup plus concrets et utilitaristes, propres à la cavalerie. Et la manière dont le cavalier doit se tenir à cheval, c'est bien sûr essentiel. Donc, les traités d'équitation du XVIIe ne pouvaient pas ne pas l'évoquer. Pluvinel, notamment, il consacre un passage fort long et fort détaillé que je vous épargnerai, mais qui est très significatif de l'équitation du paraître, qui se développe alors. Et ce qu'on peut en retenir, un des éléments, c'est que ce qui est important pour Pluvinel, pour avoir une bonne position à cheval, c'est d'être gai. Il faut sourire. Car c'est une des parties très requises aux chevaliers d'avoir la face riante, en regardant quelquefois la compagnie, sans guère la tourner ni ça ni là, afin que cette gaieté fasse connaître qu'il n'est point embarrassé par ce qu'il fait. On retrouve toujours l'idée d'un homme qui se maîtrise, qui, avec une apparente facilité, va accomplir les prouesses les plus étonnantes à cheval. Donc il faut sourire pour être bien assis à cheval. La Guérinière, un siècle plus tard, transmet la même vision, très codifiée et très civilisatrice, de l'art de la cavalerie. Selon lui, c'est la grâce qui caractérise d'abord la belle posture. Cette grâce qui, dit-il, comment elle est faite? Elle est faite d'un air d'aisance et de liberté. Alors, autant lorsqu'on évoque certains points de la morphologie du cheval ou la vitesse, on renvoie à des notions très précises, autant là, avec l'aisance et la liberté, on est clairement dans le domaine de la subjectivité. On est dans l'impression, dans le tact, ce que les cavaliers appellent le tact, parce qu'il s'agit avant tout, par cette position, par cette posture, il s'agit d'embellir l'assiette du cavalier, de charmer les yeux des spectateurs. Et d'un point de vue sémantique, l'évolution est très, très intéressante. On passe de la belle posture du XVIIe siècle, de Pluvinel et la Guérinière, on passe de la belle posture à la bonne position des auteurs militaires qui écrivent et qui réfléchissent sur l'art équestre. Et il y a effectivement une évolution. Elle est sensible chez Gaspard de Saunier qu'on a vu rapidement, qui lui est proche des réalités militaires. Et s'il lui emploie toujours le thème de posture, les exigences qu'il met en avant paraissent quand même se détacher du primat de l'esthétique. Là, l'esthétique l'intéresse moins déjà. On sent qu'il y a une évolution. Et surtout à partir du milieu du XVIIIe siècle, dans le contexte qu'on a vu de remise en cause de l'influence de la haute école, les officiers de cavalerie eux-mêmes vont se mettre à réfléchir, vont s'intéresser à la question de la bonne position, de la bonne posture. Et de manière significative, le chevalier de Chabot évoque désormais les positions de guerre. Il ne s'agit plus de belles postures, il s'agit de positions de guerre. Quant à Daudeville, s'il s'abandonne encore un peu dans les détails, ses consignes aux cavaliers débutants sont concrètes et pragmatiques. Le cavalier, dit-il, doit s'asseoir et s'enfoncer dans sa selle, de manière qu'il y soit à son aise et que ses fesses ne la quittent point. Alors c'est assez concret, mais c'est encore plus long que ce que propose Moustier, qui conseille simplement de s'asseoir naturellement sur ses fesses comme on ferait sur une chaise. Voilà. Donc de Pluvinel à Moustier, on voit l'évolution, c'est très significatif et c'est très intéressant. Et encore une fois, c'est d'Auvergne, là, ici, qui va venir apporter le point d'orgue de cette réflexion des officiers sur la manière dont on s'assoit sur son cheval. Et il va le faire, c'est surtout la façon dont il le fait qui est intéressante. Il aborde la question de la position du cavalier en termes scientifiques, en alliant l'anatomie et la physique dans une analyse mécaniste qui veut d'abord rechercher l'efficacité. C'est une planche tirée de l'ouvrage de La Guérinière, donc le maître de la haute école, et on y voit quelques-uns des airs relevés les plus célèbres. Vous avez les airs naturels, qui sont le galop, le trot, le pas, et vous avez les airs artificiels, les airs à terre, et les airs relevés étant le must de l'équitation, ce qu'il y a de plus difficile à réaliser. Et La Guérinière voudrait faire croire que tous ces airs relevés ont leur utilité sur le champ de bataille. Alors, d'Auvergne, lui... Point des questions de tout cela. Lui, il analyse en scientifique la question de la position du cavalier. Il part de l'existence d'un centre de gravité et du principe que l'homme et le cheval en ont également, et qu'il faut parvenir à placer l'homme sur le cheval de manière à ce que son centre de gravité à lui, qui serait matérialisé par un axe qui partirait du sommet du crâne jusqu'à l'os du pubis, que cet axe du centre de gravité se trouve directement opposé à l'axe du cheval, qui, lui, va du milieu du dos et se termine à la pointe du sternum. Et donc, il faut que l'axe du centre de gravité du cavalier et celui du cheval soient dans la même perspective et ne forment qu'une ligne. Car s'il y a un angle entre les deux, alors les deux vont se choquer, vont bouger, vont se heurter à chaque instant, et on va perdre en force et en vitesse. Le corps du cavalier doit donc être suffisamment mobile pour replacer son centre de gravité, son axe, dans celui du cheval. Mais il faut aussi équilibrer le corps pour ne pas que le cavalier tombe au moindre mouvement. Et là, ce rôle de contrepoids du corps, d'équilibre, il est attribué aux jambes et aux cuisses. C'est elles qui vont faire contrepoids. Alors, c'est un ouvrage postérieur, hein, ce n'est pas d'Auvergne. C'est un de ses élèves, Bohan, le marquis de Bohan, qui fait cette illustration dans un ouvrage publié au début du 19e. Et on y voit matérialiser les axes représentant les forces qui s'exercent sur le corps de l'homme, sur la cuisse, et à chaque fois qu'il y a une petite croix, et l'axe qui montre également le mollet et la jambe. Ces axes représentent les forces qui s'exercent, et comme ces forces vont toutes dans le même sens et sont parallèles, eh bien cela va contribuer à tenir l'équilibre du cavalier. Et là encore, le lexique est très intéressant. Voilà ce que dit Bohan, qui reprend les paroles de son maître d'Auvergne. Dit « L'union, l'équilibre et le mouvement des corps étant du ressort de la mécanique, il est clair que l'équitation peut être subordonnée à ces lois. Et si l'on avait eu recours plutôt à cette science démonstrative, on aurait évité une marche équivoque qui nous a conduit à tant d'erreurs. » Donc, mouvement des corps, mécanique, science démonstrative, on a là un lexique qui s'intègre dans le champ de la réflexion scientifique. On voit là l'énorme... Le fossé qui sépare des gens comme Pluvinel ou La Guérinière de telles considérations. Et on en arrive, donc je parlais de débats vraiment, on part de Pluvinel et de son cavalier souriant, et on en arrive à des débats très militaires, très concrets, c'est-à-dire, par exemple, au 18e, à partir du milieu du 18e, il y a un débat, il y a deux écoles un petit peu chez certains officiers, sur la position à cheval et sur la longueur des étriers notamment. Doit-on étriver long, c'est-à-dire avec des étriers très longs et les jambes très tendues en avant, ou doit-on étriver très court, avec les jambes un peu repliées, comme le font les cavaliers des steppes ou les cavaliers orientaux, qui étrivent très court et qui sont presque assis comme sur un tabouret. Donc il va y avoir les tenants du tabouret et les tenants de la posture un peu plus proche de la haute école. Donc voilà, ce qui préoccupe les officiers désormais, c'est plus de savoir si le cavalier va avoir l'air riant devant l'ennemi, c'est de savoir quelle position des membres va être la plus efficace pour combattre, notamment pour allonger les coups de sabre. Est-ce qu'on est mieux placé assis sur le fond de sa selle en étrivant long, ou est-ce qu'on allongera le coup de sabre de manière plus efficace si on est un petit peu en extension avec les jambes pliées? Et d'ailleurs, on peut se lever ainsi plus facilement pour allonger le sabre et gagner en longueur. Et ça, c'est les cavaliers français de Rosbach ont payé pour savoir que le fait d'avoir un sabre un peu moins long que l'ennemi, ça peut avoir des inconvénients quand même. Donc voilà, c'est très concret comme débat désormais. Autour de cette position du cavalier, on a des débats très concrets et dans une perspective scientifique. Et cette évolution est caractéristique d'une transformation en fait plus large encore, c'est le passage de l'équitation d'un statut d'art à un statut de science. L'équitation devient une science. Et là, la sémantique vient encore à notre aide. Le terme d'équitation semble être employé pour la première fois par Bourgelat en 1744. Jusqu'ici, ce terme n'était pas employé. On parlait d'art de la cavalerie, justement, mais pas d'équitation. Et ensuite, dans les années 1760, quasiment tous les nouveaux ouvrages publiés emploient le terme équitation dans leur titre. On voit une transformation, et cela se voit également chez les officiers. On a toute une génération d'officiers, à partir du milieu du XVIIIe, qui s'appuient désormais essentiellement sur l'observation et l'expérimentation. C'est-à-dire que l'expérimentation, dans le sens du paradigme baconien de l'expérimentation, est non pas une expérimentation par tâtonnement empirique, tiens, oh ben j'ai expérimenté sans m'en rendre compte quelque chose, j'ai trouvé quelque chose, non. Là, il s'agit d'expérimenter de manière méthodique et analytique. C'est-à-dire, je vais, pour vérifier une hypothèse, je vais organiser une expérience. Et les officiers sont capables désormais de réfléchir de cette façon-là. Ils veulent analyser, ils veulent comprendre. Ils veulent donner à leurs arguments la force des raisonnements scientifiques, quitte d'ailleurs parfois à habiller d'une apparence scientifique des idées qui sont un peu farfelues. Mais c'est quand même significatif que même pour faire passer le farfelu, on utilise le scientifique, désormais. Et au cœur de cette science, il y a le cheval, cette mécanique vivante, sublime, et peut-être un nouveau, ou en tout cas un nouveau rapport métaphorique, où on insiste sur une nouvelle métaphore, après le cheval royaume, après le cheval en tant que métaphore de la puissance de la nature, le cheval mécanique naturel, et de cette métaphore témoigneraient peut-être les écorchés de chevaux, les dessins de chevaux écorchés, les planches anatomiques qu'on trouve dans les traités d'équitation, et qui visent à explorer de l'intérieur les ressorts de cette belle mécanique qu'est le cheval. Et cette intégration du cheval dans le champ de la réflexion et du raisonnement scientifique ne s'arrête pas à l'instruction équestre. Les caractéristiques du cheval sont objectivement évaluées, sa vitesse notamment. Elle est désormais estimée, c'est une nouveauté au XVIIIe siècle, on estime la vitesse dans un rapport espace-temps. Ce n'était pas le cas auparavant. Même les spécialistes, les gens de l'art, dans leurs ouvrages, ils évoquent des allures avec des adjectifs plus ou moins précis, grand galop, petit galop, galop allongé, trot, donc ce sont des allures relatives, mais il n'y a pas de mesure objective et scientifique, absolue si vous voulez, de la vitesse. Et ça apparaît au XVIIIe siècle. Alors c'est très intéressant parce que ça permet de faire progresser l'art militaire. Ça permet, par exemple, on peut faire des expériences en faisant avancer un escadron sur différents types de terrains. On va pouvoir mesurer à tel type d'allure combien de temps il va mettre pour parcourir une distance sur un terrain bourru, fangeux, plat, montueux. Et donc, l'officier va en tirer des réflexions très utiles à la guerre pour savoir, lorsqu'il aura besoin de faire charger son escadron, donc voilà, je veux partir au galop, mais j'ai tel type de terrain, il va me falloir plus de temps que je ne le pense. Donc, mon escadron va être exposé au feu de l'ennemi pendant un temps assez long, ce qui va lui valoir 2 ou 3 décharges successives d'artillerie ou de fusil. Donc là, ça renvoie concrètement à l'emploi de la cavalerie et on trouve une utilité extrêmement pratique. Également, ça permet, cette objectivation de la culture équestre par la science, permet d'analyser le choc, désormais. C'est d'Auvergne qui le fait encore fort bien. En des termes scientifiques, le choc d'un corps est en raison de sa masse et de sa vitesse, d'où il résulte que plus le cheval aura de taille, plus on pourra lui procurer de vitesse, plus on obtiendra du choc. Il ne faudrait pas en conclure que l'on doit alors s'obliger à prendre les plus grands chevaux possibles. En effet, suivant un principe mécanique, en augmentant le volume d'une machine, il lui faut plus de temps pour opérer ses effets. Ainsi, si l'on augmente trop la taille et le poids, on va perdre en vitesse. Tout l'intérêt de trouver un équilibre entre la taille, la carrure et la vitesse. Donc on peut se demander si on n'assiste pas là à la naissance d'une nouvelle dimension dans l'imaginaire du cheval. Ça ne veut pas dire que les autres sont rayés ou effacés. Cette dimension politique, le rapport au pouvoir, reste. Mais on voit émerger ou s'affirmer une nouvelle dimension qui serait liée au progrès de la science, au positivisme naissant. Et le cheval est intégré à cette nouvelle perception de l'univers, une perception scientifique, parce qu'on peut l'appréhender, lui, le cheval, on peut l'analyser par la physique, par la mécanique, par l'anatomie. Le cheval se prête bien au nouveau langage scientifique. En conclusion, à quoi a-t-on assisté ? Eh bien, on a assisté d'abord à un transfert. Le transfert d'une équitation de pouvoir, une équitation du paraître, vers une équitation qui est caractérisée par sa dimension fonctionnelle, utilitariste, professionnalisante. Les officiers de cavalerie sont désormais des professionnels. Et ils envisagent leur culture équestre de cette façon-là, désormais. Ce n'est pas sans difficulté, on l'a souligné, du fait de la difficulté à fixer des principes clairs pour tout le monde. L'équitation de la haute école va perpétuer son influence. Mais le pli est donné. Désormais, on est sur une perspective qui aboutira. On a assisté au XVIIIe siècle à un véritable tournant de ce point de vue-là. La deuxième conclusion, c'est peut-être l'intégration ou au moins l'affirmation d'une autre dimension de l'imaginaire équestre qui fait écho à l'entrée de la civilisation européenne dans le monde de la rationalité scientifique.